Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. Bel âge, au programme de la bonne humeur pour tous, les manipulateurs démasqués et nos conseils pour garder le moral. Bonne écoute!
De la bonne humeur pour tous, un texte de Ève Martel, paru dans Bel âge. Exercer ses muscles de bonne humeur demande un examen de nos habitudes. Mes astuces pour accueillir plus de joie dans sa vie. Un jour, où j'étais d'humeur maussade, j'ai remarqué que je ruminais en rejoignant dans ma tête une confrontation avec un livreur impoli. Il m'arrivait aussi de me sentir abattu par une journée sans conversation, où l'isolement me pesait. Pourtant, il suffit de calibrer sa perception de la situation pour en réduire les mauvaises vibrations. Ainsi, plutôt que de me laisser intoxiquer par le souvenir des échanges corsés avec le livreur, j'avais le choix de me dire que, dans le fond, j'étais chanceuse d'être plus patiente que ce dernier et que ça devait être lourd pour lui d'être aussi mal engueulé. Et qu'au lieu de m'arrêter à l'idée que je suis seule dans mon salon à parler à mon chat, je peux faire la liste de gens avec qui j'aime discuter et mettre à l'agenda des appels au téléphone ou par Zoom. En me concentrant sur les sources d'amour dont je jouis, pourvu que je m'active un peu, je réaliserai la chance que j'ai d'avoir des proches avec qui je peux échanger, alors que d'autres vivent dans l'isolement total. C'est ce que j'essaie de plus en plus d'intégrer à ma vie, la bonne humeur active. Celle qui insiste pour prendre le micro en me chantant que tout ira bien et que j'ai le droit d'être heureuse. Être de bonne humeur ne veut pas dire ignorer les sentiments de tristesse ou les soucis qui nous habitent parfois. Il s'agit en fait d'un outil qui nous aide à nous laisser gagner par le fou rire plutôt que par l'anxiété. Voici quelques astuces qui nous aideront tous à ressentir les bienfaits de la bonne humeur plus souvent. Exercer la bonté. Pour moi, la bonté est une valeur primordiale. Cela implique que, devant une situation confrontante, je choisis le chemin qui mènera vers une résolution paisible. La serveuse apporte la mauvaise assiette. Expliquons-lui calmement, plutôt que de piquer une crise, et la priver d'un pourboire. En plus de ne pas gâcher sa journée, on rentrera chez soi le cœur bien plus léger. La bonté, c'est aussi faire un compliment, poser un geste pour aider quelqu'un, parler avec douceur et encouragement. C'est donner le meilleur de soi à son prochain. Apprécier les petites choses. Vivre dans la bonne humeur passe également par savourer les petites douceurs de la vie quotidienne. L'odeur du café le matin, tomber sur son film préféré par hasard, à la télé, regarder les oiseaux se nourrir dans la mangeoire qu'on a installée près de la fenêtre. En s'attardant à ces petites choses et en y prenant plaisir, on reste dans une humeur plus positive au fil de nos journées. Créer de nouveaux moments. Le cerveau adore être sollicité et vivre de nouvelles choses. Laissons donc libre cours à notre curiosité. Cela peut se faire en s'inscrivant à un atelier d'apprentissage d'une langue, en achetant un nouveau jeu de cartes, ou encore en prenant un bon bain avec une mousse parfumée qui surprend agréablement nos narines. enregistrer des instants de découverte sur la cassette de notre cœur nous aidera à nous sentir bien et à rester allumés. Et ça, c'est une excellente source de bonne humeur. Pour mettre plus de sourire dans mes journées, je me concentre sur ce qu'il y a de bon dans chaque personne, j'apprécie les petites choses, je reste en mode découverte. C'était « De la bonne humeur pour tous », un texte de Ève Martel paru dans « Bel âge ». Les manipulateurs démasqués, un texte de Caroline Fortin, paru le 23 janvier 2023 dans Le Bel Âge. Le terme « gaslighting » est de plus en plus d'actualité. Conseil d'experts pour reconnaître cette forme de manipulation insidieuse et l'éviter. Si le mot « gaslighting » semble sans lien avec la violence psychologique, c'est qu'il ne prend tout son sens que, quand on connaît son origine, le film « Gaslight », sorti en 1944, est judicieusement titré « Hantise » en français. Ce trailer met en scène un escroc désirant récupérer des bijoux entreposés au grenier d'une demeure où il vient d'emménager avec son épouse. Il se lance alors dans une habile entreprise visant à la faire douter de sa propre santé mentale. Il subtilise divers objets, puis l'accuse de les avoir pris, en venant même à la traiter de kleptomane. Lorsqu'elle affirme avoir remarqué que, certains soirs, les lampes à gaz de la maison vacillaient, il rétorque que son imagination lui joue des tours. Mais voilà, c'est bel et bien parce qu'il allume ses lampes au grenier lors de ses fouilles que l'intensité de la lumière baisse au rez-de-chaussée. D'où le terme « gaslighting » qu'on traduit maintenant par « détournement cognitif ». Un outil dans l'arsenal du manipulateur. Comme le résume le psychologue montréalais Hubert Van Gysegem, il s'agit d'une forme d'abus psychologique où il y a manipulation d'informations pour faire douter la victime de ses capacités intellectuelles ou cognitives, telles que sa mémoire ou sa perception de la réalité. Attention toutefois, deux personnes peuvent très bien avoir des perceptions différentes sans qu'il y ait détournement cognitif. Prenons un couple de longue date qui s'obstine sur un événement de son passé, mentionne le psychologue. Comme la mémoire a une propriété constructive, c'est-à-dire qu'un souvenir si grave en fonction de notre connaissance du monde et de ce qu'on est aujourd'hui, un souvenir commun peut différer chez deux individus. Ainsi, ils peuvent se chicaner au sujet de qui leur a avancé des fonds pour l'achat de leur maison. Dans un cas de gaslighting, on aurait exactement la même discussion, sauf que l'un des deux aurait pour objectif de manipuler l'autre, de le faire sentir nul, coupable, cheap, incapable. Une intention de manipulation est donc requise pour qu'il y ait détournement cognitif. La personne sait qu'elle ment, qu'elle est en train de berner l'autre, signale Claudine Thibaudeau, travailleuse sociale et responsable du soutien clinique et de la formation à SOS Violence Conjugale. Elle veut notamment mettre en doute la perception que la victime a d'une situation, lui faire perdre confiance en elle, installer son emprise, gagner du pouvoir. Et souvent, L'agresseur se sent légitimé de le faire. Il n'aime pas qu'on lui fasse des reproches, par exemple, alors il nie la réalité. Comme dans toute situation de manipulation, l'abuseur commence en douceur. Il doit d'abord se montrer aimable s'il veut séduire sa victime. Puis, progressivement, il tisse sa toile. Il dément des choses qui se sont bel et bien produites.
« J'ai jamais dit ça. »
« C'est dans ta tête. »
« Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. »
Il prête des gestes ou des paroles à l'autre.
« C'est toi qui m'as promis ça. Tu m'as forcé à le faire. »
Il blâme l'autre dans le but de l'amener à se remettre en question.
« Tu es trop sensible. Tu dramatises toujours. Les gens trouvent que tu es... »
Souvent, le gaslighting n'est pas la seule stratégie d'un agresseur, mais un outil qui fait partie de son arsenal, ajoute la travailleuse sociale, et qui s'inscrit dans la violence psychologique globale. Qui abuse qui? Même s'il n'existe pas de portrait type de l'abuseur, le détournement cognitif est majoritairement utilisé par des hommes, le plus souvent au sein de relations amoureuses, même s'il peut survenir au travail, dans la famille ou entre amis. On observe davantage de violences de tout ordre, psychologiques, sexuelles, physiques, mentales, économiques, chez les personnes présentant un trouble de la personnalité de type antisocial ou narcissique. Les gens ayant une personnalité narcissique sont les meilleurs manipulateurs du monde. Et quand on examine sa prévalence à l'échelle de la planète, elle est beaucoup plus élevée chez les hommes, soutient Hubert van Gysegem. Par contre, beaucoup de manipulateurs ne seront jamais violents physiquement. Et beaucoup d'hommes violents physiquement sont trop stupides pour être de bons manipulateurs. Ça demande une aptitude. Et comme le détournement cognitif repose sur la déformation de la réalité, il devient difficile de l'exercer sur plus d'une personne. L'abuseur prête le flanc à la détection s'il tente d'en manipuler plusieurs à la fois, parce que l'une ou l'autre peut démentir et prouver ce qui s'est passé, précise le psychologue. Vous écoutez « Les manipulateurs démasqués », un texte de Caroline Fortin, paru le 23 janvier 2023, dans Le Bel Âge. Quant à savoir s'il y a des personnes plus à risque que d'autres d'être manipulées par ce procédé, la travailleuse sociale Claudine Thibaudeau est catégorique. La réponse est non, et c'est important de le souligner. Les gens ont l'impression que certaines personnes sont plus manipulables que d'autres. Ayant des préjugés du type, elle est crédule, elle n'est pas tellement allumée. Mais n'importe qui, même quelqu'un de spécialisé en violence conjugale, peut se faire manipuler. À ce sujet, Hubert van Gysegem apporte une nuance. La personne qui a des traits dépendants est plus à risque de l'être. Parce qu'il est par définition sournois, le détournement cognitif n'est pas facile à détecter. Je n'aime pas parler de drapeau rouge, parce que c'est comme dire que la victime devrait pouvoir les repérer, déclare Claudine Thibaudeau. Plus la violence est subtile, plus c'est compliqué de l'extraire de son contexte et de la voir pour ce qu'elle est. Généralement, ça prend du temps avant de constater que c'est une dynamique et non un comportement isolé ou simplement quelqu'un qui a une perception différente des choses. Par contre, on peut assurément s'interroger si on a l'impression d'être constamment remis en question, d'avoir un peu trop souvent tort dans nos échanges et de se faire fréquemment dire qu'on n'a pas raison, poursuit-elle. Quand on reçoit des appels de personnes manipulées à SOS Violence Conjugale, elles nous disent « Je sais que j'ai tendance à exagérer. Je ne suis plus sûre de rien. » On peut ainsi rester toute sa vie avec un abuseur mental, prévient Hubert Van Gissegem. Ces victimes ne voient pas la malfaisance, et plutôt que de contester la parole de l'autre, elles préfèrent se remettre en cause elles-mêmes. Et c'est très grave de douter de sa propre santé mentale. C'est l'équivalent d'une mort psychologique. Ce sont les gens qui perçoivent les signes qui seront capables de s'en sortir. Comment te dire adieu? Si on perçoit des indices de détournement cognitif, on peut toujours commencer par les documenter, suggère Claudine Thibaudeau. Avoir noté plusieurs événements peut nous permettre de prendre un pas de recul, de nous faire notre propre idée et d'avoir une vision plus claire. Parce que l'abuseur, lui, a avantage à nous garder le plus possible dans le brouillard. Il faut bien sûr faire attention à l'endroit où on conserve ses notes, pas à la maison si on habite avec lui, ni dans un appareil électronique auquel il a accès physiquement ou à distance. Ensuite, on peut se faire aider pour préparer un plan afin de quitter notre manipulateur. Des organismes comme SOS Violence Conjugale peuvent nous soutenir et nous diriger vers des ressources appropriées. La fuite, c'est la seule bonne solution avec les manipulateurs, affirme Hubert Van Gissegem, mais elle comporte le danger que ça vire au drame. Un risque que connaît trop bien Claudine Thibaudeau, qui invite les victimes à passer le test d'auto-évaluation « Y a-t-il des comportements violents dans ma relation ?» sur le site sosviolenceconjugale.ca. Dans la section « Je m'interroge ». Bref, si le « gaslighting » est un terme relativement nouveau, cette forme de manipulation, elle, a toujours existé. Mais c'est bien qu'on lui donne un nom, qu'on en parle, comme dans cet article, estime la travailleuse sociale. Parce que plus on met cette tactique en lumière, plus ce sera facile pour une victime de l'identifier. Et moins d'entre elles se croiront folles, bien à tort. Quand un proche en est victime, il peut arriver qu'on soit témoin d'un épisode de détournement cognitif ou que le comportement d'une amie nous inquiète parce qu'on la soupçonne d'en être victime. Dans un tel cas, que faire? Il faut intervenir, mais avec grand respect, conseille la travailleuse sociale Claudine Thibaudeau. On ne doit pas essayer de convaincre la personne concernée, mais lui exposer notre vision sans l'imposer pour qu'elle puisse tirer ses propres conclusions. On doit aussi lui offrir de l'aide et du soutien, lui dire qu'on est là pour elle. On peut également lui fournir de l'information sur le détournement cognitif. Et il faut rester présente dans sa vie, car les manipulateurs tentent de faire le vide autour de leurs victimes. C'était « Les manipulateurs démasqués », un texte de Caroline Fortin, paru le 23 janvier 2023 dans « Bel âge ». Nos conseils pour garder le moral, un texte de Isabelle Bergeron, paru dans Bel âge. De la crainte passagère à l'anxiété tenace, la crise que nous avons traversée ces derniers mois n'est pas sans affecter notre morale. Comment tenir le coup, maintenant que la vie reprend peu à peu son cours? Les conséquences de la pandémie sur notre humeur varient d'une personne à l'autre. Elles changent même d'heure en heure. Quelques points communs ressortent néanmoins. Les impacts psychologiques dépendent de plusieurs facteurs, explique Christine Groux, directrice de l'Ordre des psychologues du Québec. Mais si on y va de façon macro, il y en a trois très importants. En premier, le terrain biologique et psychologique sur lequel tout se joue. Est-on en bonne santé physique et psychologique? Quelles ressources internes possède-t-on? Est-on du genre à voir facilement le positif? En deuxième, les effets de la crise liés à des pertes. A-t-on perdu un proche ou notre emploi? Éprouve-t-on des difficultés financières? En troisième, l'environnement psychosocial. Est-on isolé? Vit-on des tensions familiales? Peut-on compter sur des amis? Reçoit-on de l'aide au besoin? La plupart du temps, des symptômes liés à l'anxiété surgissent, comme le sentiment de perte de contrôle, des idées obsédantes, l'anticipation du pire ou la peur d'être malade. À différents degrés, l'anxiété nuance nos états d'âme. Chez certains, le découragement, la tristesse, voire la dépression s'invitent. Et lorsque des tensions familiales mettent de l'huile sur le feu, il y a risque d'explosion. Par-dessus le marché, des excès d'alcool, de drogue ou de nourriture, ou un sommeil en dents de scie, pourraient tout faire déborder. Pour plusieurs, l'effet est terrible. Environ 2% des gens subiront une décompensation psychotique, avance Christine Groux. Cela signifie qu'ils vivront un épisode grave de problèmes mentaux, comme du délire ou des hallucinations. Souvent, ces personnes étaient déjà malades ou avaient des prédispositions. D'autres vivront un stress post-traumatique. Je pense au personnel soignant, aux gens ayant vécu un deuil difficile. Des gestes salvateurs. Pour renforcer notre mental face à la crise, on peut se concentrer sur ce qu'on est capable de contrôler, et non l'inverse. L'impression de perdre le contrôle peut être très angoissante, admet l'experte. Mais il y a toujours des choses sur lesquelles on a le contrôle. On doit se concentrer là-dessus. D'où l'importance de conserver sa routine ou de s'en créer une qui encadre de façon rassurante nos pensées et nos actions et retient notre attention. Avoir des projets. Se fixer constamment des objectifs. Terminer un casse-tête. Planter des fleurs ou essayer une nouvelle recette, par exemple, favorise le bien-être. Développer de nouvelles aptitudes, comme le tricot, le dessin ou autre, aide aussi à garder le moral au beau fixe. Adopter de bonnes habitudes de vie. C'est important en tout temps et davantage quand on traverse une période difficile. Le fait de bouger, de bien manger et de dormir suffisamment aide à gérer le surplus de stress et d'anxiété. Garder contact. La solitude et l'isolement comptent parmi les contre-coups importants de la pandémie et peuvent se traduire en véritable détresse psychologique. Les appels téléphoniques ou FaceTime, les coucous de loin font du bien. On n'attend pas qu'on nous appelle, on prend les devants. On se donne pour but d'entrer en contact avec quelqu'un sur une base régulière. Bien s'informer, mais pas trop. Le bombardement constant d'informations risque de nous stresser, surtout si celles-ci ne sont pas sûres. regarder ou lire les nouvelles une fois par jour est suffisant. L'idéal est de se fier à des sources sûres et bien documentées comme le gouvernement, la santé publique ou l'OMS. Aider les autres. Selon différentes études, cette pratique contribue à améliorer la perception de soi et même à faire augmenter notre indice de bonheur. Prendre des nouvelles d'une amie ou faire les courses pour une personne vulnérable sont des gestes bénéfiques pour les autres et pour nous. Développer notre résilience. Cette capacité à résister aux chocs n'est pas génétique. On peut la développer en s'efforçant de voir le côté positif d'une situation, en étant reconnaissant pour ce que l'on a, en réalisant qu'on a déjà surmonté bien des épreuves ou en entretenant une image favorable de nous-mêmes. Tenir un journal intime, se choyer avec de bons livres, des films drôles ou des moments de méditation, cultiver l'indulgence pour soi et pour autrui, sont des façons d'y parvenir. Les livres du psychiatre Boris Cyrulnik sont excellents pour nous enseigner la résilience. L'un des aspects positifs de cette crise sera de réaliser, en tant qu'individu, mais également comme société, qu'on aura été capable de traverser cette épreuve avec beaucoup de résilience, poursuit Christine Groux. Aussi, on aura emprunté des chemins jamais empruntés avant, qui nous auront fait prendre conscience, entre autres, de la valeur de certains métiers, de l'importance de la communication et de l'empathie. C'était « Nos conseils pour garder le moral », un texte de Isabelle Bergeron, paru dans « Bel âge ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visivoire.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.